L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Bonsoir à vous tous. Je suis contente et honorée d'être devant vous. C'est un privilège de pouvoir vous partager la parole ce soir. Ce n'est pas quelque chose que je fais souvent, donc c'est vraiment un privilège pour moi. Et effectivement, ce soir, je vais vous partager certains des témoignages que j'ai vécu depuis ces quelques dernières années que je marche avec le Seigneur. Il y en a eu plusieurs, et il y en a que je ne raconterai pas parce que ce n'est pas forcément approprié pour ce soir, mais... c'est ça, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur depuis plusieurs semaines déjà de vous partager ce que j'ai vécu avec lui. Et bon, j'ai un peu résisté, hein, je vous le cacherai pas. Mais vraiment, encore dernièrement, on a vécu quelque chose avec mon mari, une grande percée dans notre vie. Et c'était comme vraiment, là, c'est devenu encore plus fort sur mon cœur. Il fallait que je le partage à l'église, il fallait que vous puissiez aussi être bénis par ça, parce que des miracles, on n'en vit pas tous les jours, hein, faut dire ce qui est, c'est quelque chose de pas commun. Et si on ne le partage pas, si on n'informe pas nos frères et nos sœurs, ça ne se saura pas, en fait, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va leur dire. Ça peut arriver, mais en général pas. Et déjà, il faut témoigner pour la gloire de Dieu, c'est certain, mais aussi parce que certains d'entre vous vivent peut-être des temps qui sont similaires au temps que j'ai pu vivre. Et puis, vous êtes peut-être aussi dans des situations où vous attendez votre percée, vous attendez votre miracle. Et si mon témoignage peut vous encourager déjà, mais aussi vous donner vraiment des bases solides, et puis vous donner quelque chose sur quoi vous appuyer pour pouvoir bâtir votre foi, franchement, gloire à Dieu, c'est l'objectif de ce soir. Donc je vous invite vraiment à avoir le cœur ouvert, à vous attendre à recevoir quelque chose ce soir, pas de moi, mais de Dieu. Vraiment, le Saint-Esprit peut vous toucher au travers de ce que je vais vous partager. Et ayez le cœur ouvert, attendez-vous à quelque chose, soyez pas juste là pour vous dire, tiens, je viens écouter une jolie histoire. C'est toujours les témoignages, c'est toujours intéressant, hein. On aime bien les témoignages, c'est toujours, ça nous touche, et puis c'est quelque chose qui est facile à écouter, c'est pas forcément comme un enseignement où ça demande beaucoup de concentration, mais attendez-vous vraiment à recevoir quelque chose aussi de la part du Seigneur, parce que au travers d'un témoignage, le Saint-Esprit peut vous parler personnellement et peut amener vraiment une révélation. C'est peut-être des choses que vous connaissez déjà, mais tout à coup, ça devient vie en vous, ça prend forme, et puis vous avez vraiment un réma, une révélation. Et c'est ma prière vraiment ce soir, c'est que vous repartiez avec une révélation, un réma de la parole de Dieu, de ce que j'ai vécu avec le Seigneur, et que vous vous l'appropriez vous-même personnellement. Donc c'est pas juste écouter une belle histoire, mais vraiment vous pouvez ressortir d'ici vraiment béni, et puis avec un miracle même. Moi, je mets ma foi pour ça, vraiment, c'est ce que je souhaite vraiment pour vous. Si vous êtes dans une situation où vous attendez quelque chose de la part de Dieu, vous attendez votre percée, vous attendez qu'il arrive quelque chose dans votre vie, soyez dans l'expectative ce soir, parce que le Saint-Esprit peut vous parler ce soir. Vous pouvez saisir juste une parole que je vais dire, il suffit d'un mot qui tout à coup vous touche, et là, vos yeux s'ouvrent, et puis c'est la révélation, et vous vivez votre percée. Donc voilà, c'est vraiment, ayez le cœur ouvert, je voulais juste vous exhorter à ça avant de commencer, parce que c'est vraiment important, l'attitude du cœur va changer beaucoup de choses. Je me souviens d'une fois où mon mari m'a... je vous le raconterai plus tard, mais j'allais à une réunion spéciale où je ne m'attendais pas particulièrement à grand-chose. Et avant de partir, il m'a dit « Faut que tu aies le cœur ouvert. Faut que tu aies le cœur ouvert, vas-y, le cœur ouvert. » Et effectivement, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, vous le verrez plus tard. Mais c'est pour dire que... Peu importe, là on est dans une salle de classe, on n'est pas dans une salle d'église, c'est pas un dimanche matin, c'est un mercredi soir, mais Dieu est là aussi et c'est le cas partout, donc voilà, ayez vraiment le cœur ouvert. Je vais commencer par un verset qu'on va réapprofondir plus tard. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Hébreux 6:12. C'est un verset que vous connaissez certainement déjà tous. Mais j'aimerais que ce soir, il prenne vie en vous, justement. Donc, Hébreux 6:12, « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Je ne veux pas que vous m'imitiez ce soir. Hein. Il y en a des bien plus grands que moi que vous pouvez imiter. Dans ce verset, on parle d'Abraham, par exemple, etc. Mais je vais revenir sur ce verset plus tard, mais je voulais juste commencer par ça, garder ça en tête. J'aimerais vraiment que ce soir, on puisse parler de la foi, de la persévérance, et pour hériter des promesses, justement. C'est vraiment le thème de ce soir. Et ce que je remarquais, c'est que quand on lit la Bible, on a l'impression qu'un miracle... Ben c'est assez facile, surtout quand on lit les évangiles. Hein, la personne venait auprès de Jésus, elle croyait, elle lui demandait quelque chose et la personne était guérie. Et on se dit, mais pourquoi nous, c'est si compliqué que ça? La Bible dit que tout ce qu'on demande au Père dans le nom de Jésus, on est supposé le recevoir. Et pourtant, je pense que vous tous dans cette salle avez déjà prié des choses, même des choses importantes. Vous avez mis tout votre cœur dedans, mais vous n'avez pas été exaucé. À la fin de votre prière, il ne se passait rien. Donc, est-ce que... la Bible ment? Est-ce que c'est faux? Non, je crois pas. Est-ce que Dieu est un menteur? Non, c'est certain. Donc, qu'est-ce qui fait que quand on prie, on est exaucé parfois et d'autres fois pas? C'est pas forcément d'être à un endroit spécial, d'être en compagnie d'une personne spéciale. Ça peut se passer dans votre voiture, ça peut se passer dans votre chambre, ça peut se passer sur votre lieu de travail, ça peut se passer à l'église dans une réunion où il y a une forte onction. Ça peut se passer dans plein de circonstances, mais pourquoi est-ce que parfois ça marche et parfois ben, ça ne marche pas? On dit que la foi n'échoue jamais, donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc il y a un problème à ce niveau-là et je vais essayer de vous donner des pistes de ce que j'ai appris moi au travers justement de mes expériences, au travers de mes témoignages, où justement je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à obtenir mes percées. Je priais, je demandais dans le nom de Jésus... Avec foi, je pensais, et après là on voit qu'il y a plein de nuances de foi, et je n'étais pas forcément exaucée, qu'est-ce qui créait ça? Donc, il y a un problème, et le problème, comme je l'ai dit, peut pas venir de Dieu, peut pas venir de la parole de Dieu. La parole de Dieu regorge des promesses de Dieu, donc si c'est les promesses de Dieu, c'est forcément que c'est la vérité, parce que Dieu ne ment pas, mais... On a un ennemi dans notre vie qui s'appelle le diable. Et souvent, on aime beaucoup l'accuser de tous nos problèmes. Il est souvent responsable, on est d'accord. Mais parfois, c'est pas lui. Mais lui, son travail, c'est de nous décourager. C'est de venir mettre le doute, venir mettre des pensées mensongères dans nos têtes. Ça, c'est son travail favori. Et il est excellent dans ce domaine. Et nous, chrétiens, on est excellents pour croire tous ces mensonges. C'est un talent particulier qu'on a. Et souvent, on se fait prendre par rapport à ça. Donc, on a un problème à ce niveau-là. Et l'autre problème, c'est nous qui avons tendance, en fait, à... croire, à s'attendre à nos propres solutions, à nos solutions humaines. Parce que, c'est sûr, quelqu'un qui vit au fin fond de l'Afrique, dans une tribu où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de transport, il n'y a rien, le seul moyen de se déplacer, c'est à pied, et il faut faire, je ne sais pas, 50 km à pied pour voir un médecin, bah, la personne, quand elle tombe malade, les solutions humaines sont assez limitées. Elle a tendance à vite se reposer sur Dieu. Mais nous, dans notre quotidien, on a quand même des possibilités d'aller chez le médecin. On peut même juste aller à la pharmacie, prendre des médicaments. On peut aller sur Internet et on fait des recherches et puis on regarde comment les gens ont réussi à être guéris de telle ou telle maladie, quelles plantes on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et une fois qu'on a regardé toutes ces choses, eh ben on les essaye et puis on en essaye une et une autre et une autre. Puis de temps en temps, ben on va prier un petit coup. Et puis, oh, bah, ça n'a pas marché. Bon, bah, alors, qu'est-ce qu'on me propose d'autre sur Internet? Ok. Ah, bon, allez, je vais reprendre un petit coup. Ah, oh, ça ne marche pas encore. On repasse à autre chose. Et au final, il y a beaucoup, beaucoup de temps qui s'écoule. Donc, souvent, les gens disent, mais pourquoi dans les pays, justement, on cite souvent l'Afrique, ils vivent des grands miracles. Là-bas, c'est extraordinaire. Un prédicateur vient en Afrique et les malades sont guéris, les sourds entendent, les aveugles voient, les paralytiques marchent. La même personne fait une réunion ici, en Europe, et il y a une, deux, trois guérisons, c'est tout. Qu'est-ce qui fait? C'est la même personne, pourtant, elle a la même onction sur elle. Qu'est-ce qui fait ça? Et c'est vraiment la différence, c'est que nous, on a tendance tendance vraiment à compter sur nos propres solutions, à compter sur nos propres plans, et on a toujours un tas de plans échafaudés, tout un tas de techniques pour aller mieux, et puis après on va parler avec nos frères et nos sœurs qui nous donnent encore des conseils qu'on n'avait pas encore vus sur internet, donc on les essaye encore, et ça repousse, ça repousse, ça repousse, et ça, ça tue la foi. Donc on a deux problèmes, on a le diable et ses pensées mensongères qu'on écoute, donc au final c'est les pensées qu'on accepte qui sont le problème et pas le diable, parce que le diable, bon, il fait ce qu'il a à faire, tant qu'on accepte, ben, il continue. Et l'autre problème, c'est nous, avec tous nos plans, nos solutions de rechange, nos plans B, C, D, E, F, etc., etc. Donc voilà. Moi, en 2011, quand je suis arrivée ici, donc en juillet 2011, j'ai commencé à faire l'IBEM au mois de septembre, je pense à la rentrée, c'est septembre-octobre. Et puis, je me souviens, la première rencontre, le pasteur Jérémy nous a dit... essayez de voir le type de personne que vous aimeriez être après l'IBEM. Qu'est-ce que vous voulez que l'IBEM produise en vous ? Et nous encourager à nous attendre à quelque chose. Et je me souviens avoir réfléchi et avoir marqué vraiment dans mon petit cahier. Moi, mon désir, c'est d'être une femme de foi. Je veux devenir une femme de foi en suivant les cours de l'IBEM, en étant enseignée. C'était ce que je voulais vraiment et c'était ce qui comptait pour moi. Donc je me souviens, j'ai noté et je l'ai noté comme une confession. J'ai marqué « Je vais devenir une femme de foi ». C'était vraiment mon objectif. Je vous dis pas qu'il est atteint, mais on y vient. Et à cette époque-là, la plupart d'entre vous le savez, mon mari et moi, on essayait d'avoir un enfant depuis une année déjà. Quand je suis arrivée ici au Québec, ça faisait une année vraiment qu'on avait pris la décision d'avoir un enfant. Et prendre une décision, c'est bien, mais après, il faut que ça arrive. Et donc, ça faisait une année qu'on attendait. Bon, une année, on se dit, c'est quelque chose qui peut arriver, ça ne marche pas toujours du premier coup, etc. Donc, en plus, à Paris, on avait quand même une vie assez intense, un rythme assez intense. On se dit, bon, ben, le rythme parisien n'aide pas forcément non plus à ce que tout fonctionne bien, etc. Donc, là, j'arrive au Québec... Nouveau lieu, la terre promise, la terre fertile. J'étais vraiment dans la foi. Et là, au Québec, c'est sûr, je tombe enceinte. Et vraiment, je m'y attendais. Vraiment, vraiment. Pour moi, c'était un nouveau départ, une nouvelle saison. Et ça allait marcher tout de suite. Ça n'a pas marché tout de suite. Donc, les mois se sont écoulés. Et pour celles et ceux qui ont déjà dû attendre quelque chose et qui vivent des déceptions à chaque fois, pensant qu'ils ont obtenu leur miracle et que ça ne vient pas, vous savez que les déceptions amènent peu à peu à de la frustration. La frustration, c'est vraiment un sentiment que personnellement je déteste. C'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, qui vous empêche de penser à autre chose. Ça prend toutes vos pensées, ça prend tout votre être. Et vraiment, j'ai fini la fin de l'année 2011 dans une grande, grande frustration. Je voulais être enceinte, j'ai eu plein de faux espoirs, plein de tests de grossesse. Alors, les tests de grossesse négatifs, il n'y a pas mieux pour vous saper le moral. Au final, vous en faites plus parce que ça vous sape trop le moral. Mais vraiment, la fin de l'année était très, très difficile et j'étais assez démoralisée. Et bien sûr, pendant toute cette période, je m'attendais à Dieu, je priais, mon mari aussi, on était certains que Dieu voulait qu'on ait un enfant, on n'avait pas de doute là-dessus, que quand bien même, il y aurait peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas, Dieu était capable de résoudre le problème. Donc, on était dans une espèce de foi, si on veut, dans le sens où on croyait ce que la parole de Dieu disait et on croyait que Dieu pouvait intervenir pour nous. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y avait plein de raisonnements dans ma tête, plein de fausses pensées justement qui venaient du diable, que j'avais acceptées mais dont je n'avais même pas conscience. C'était là, c'était en moi et certaines pensées étaient là depuis des années. Et quand quelque chose est en vous depuis si longtemps, ça devient, c'est pas juste une pensée, ça devient vraiment une mentalité, puis ça fait partie de vous et ben, vous vous en rendez même plus compte en fait. J'avais pas conscience que j'avais bâti toutes ces barrières et tous ces faux raisonnements en moi qui bloquaient vraiment l'intervention de Dieu. Donc à la fin de l'année, j'en avais un petit peu marre, je voulais trouver une solution, donc je me suis résolue à aller voir un médecin. Je n'étais jamais allée consulter de médecin avant. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais y aller. Donc voilà, ça c'était plan B, solution humaine numéro XXX. Et je suis allée consulter un médecin. Qui d'entrée, très cash, très franche, hein, mon médecin, mais c'est très bien, elle était parfaite pour moi, me dit « Ah oh, bah avec un cycle comme le tien, t'ovules pas !» Bon, D'accord. Moi, j'étais sur ma chaise. Première consultation, elle m'a pas examinée, rien du tout. Je lui ai juste dit, voilà, moi, j'ai un cycle comme ça. Elle, d'entrée, avec un cycle comme ça, t'ovule pas. Bon, ben, au moins, c'est clair. Donc, ça fait un an et demi que ça sert absolument à rien, tout ce qu'on est en train de faire. OK, c'est merveilleux. C'est super encourageant. Et là, elle me dit, mais il existe des traitements. Donc, tu peux prendre des traitements et puis ça va favoriser l'ovulation, etc. Puis tu pourras avoir des enfants. Oh, ok, tant mieux, super. Alors, on commence quand? Et là, elle me dit, mais avant, il faut que je m'assure que réellement, tu ovules pas. C'est la loi qui veut ça. Je peux pas te prescrire des médicaments si j'ai pas fait des vérifications. Donc, va falloir que tu prennes ta température pendant 3 cycles. Sauf que moi, 3 cycles, c'était pas 3 mois, c'était 6 mois parce que j'ai des très longs cycles. Et ça voulait dire dans ma tête que pendant 6 mois, j'allais devoir prendre ma température tous les matins, bref, pour savoir si j'ovulais ou pas. Donc ça rallonge de 6 mois. Je dis donc pendant 6 mois, on va rien faire, on va pas prendre de traitement, on va rien faire. Non, pendant 6 mois, donc tu me rappelles quand t'as fini tes 3 cycles. Ok, super. Je lui dis, bon, bah, moi, j'ai toujours voulu avoir mon premier enfant à 25 ans. Je m'étais toujours dit ça, donc je lui dis ça. Je dis, bah, je l'aurai à 26 ans. Donc ça faisait une année après. Et elle me dit, ah non, 31, 32, 33 peut-être, ça prend du temps, tu sais. Et là, je me souviens vraiment, j'étais comme face à 2 choix, mais je me suis pas posé de questions. Je lui ai répondu du tac au tac, je dis, non, 26 ans. J'ai refusé vraiment sa parole parce qu'alors là, c'était certain que si j'acceptais ça, c'était fini, c'était vraiment ce qui allait se produire. Et je savais que là, il fallait que je me positionne. Donc j'ai dit, non, 26 ans, bah, elle a souri. Elle a dû me trouver un petit peu naïve. Mais ce qui s'est passé, c'est que un mois et demi plus tard, je la rappelais pour lui dire que j'étais enceinte. Donc j'avais raison. C'est la morale de l'histoire. Non, c'est pas vrai. Mais ce qui s'est passé entre-temps, pendant ce mois et demi, entre le moment où je suis allée la voir et le moment où je l'ai rappelée pour lui dire que j'étais enceinte, ça a été un vrai combat, vraiment. Alors autant pendant 1 an et demi, j'avais été dans une espèce d'attente passive. Dieu veut, Dieu peut, j'attends, il va le faire, ça va venir en son temps. Autant là, ça m'avait comme... ça m'avait secoué un peu, ça m'avait fait prendre conscience que oui, il y a un problème. Oui, il y a vraiment besoin d'un miracle, là, parce que si je m'attends à la science, ben, ça va être 31, 32 ans, 33 ans, et ça, je ne veux pas. Donc, j'ai besoin d'un miracle. Donc, déjà là, ça pousse à éliminer les solutions humaines, justement, parce que là, on réalise que les solutions humaines, elles nous conviennent pas, elles sont pas appropriées à ce qu'on veut, donc, il faut compter sur Dieu. Donc je me suis dit, bon ok, là j'ai besoin d'un miracle, et sur le coup j'ai pas réalisé que ça m'avait vraiment affecté ce rendez-vous-là. Je suis ressortie de là, bon bah voilà, c'est comme ça. Et quelques jours plus tard, j'étais effondrée en larmes, et vraiment ça m'avait terriblement affectée. Et particulièrement un soir où j'étais toute seule chez nous, et j'étais sur Facebook, et je regardais mon fil d'actualité, comme souvent, et je voyais des photos de bébés, d'amis. Je me suis toujours réjouie pour elles, pas de problème, mais ce jour-là, vraiment, le diable est venu m'attaquer, ça m'a terriblement affectée, et là, je me suis mise à pleurer devant mon ordinateur, mais c'était terrible, je me sentais tellement mal, et là, toutes les pensées qu'il avait mis, en fait, en moi depuis longtemps, sont toutes ressorties, il en a rajouté d'autres, avec mélangé à de la culpabilité, à de la honte, à tout un tas d'émotions absolument horribles, et j'étais là toute seule chez moi, en train d'être complètement submergée par toutes ces pensées qui étaient mensongères, en fait, et j'ai réalisé que justement, j'avais tout un tas de mentalités acceptées depuis longtemps. Ma mère a eu du mal à avoir des enfants. Donc, moi, je m'étais au fond toujours dit, parce que j'ai toujours vu que j'avais pas un cycle comme toutes mes amies. Donc, j'avais accepté le fait que j'aurais peut-être du mal à avoir des enfants, etc. Il y a eu tout un tas de choses. On vient ressortir des vieilles choses du passé, des vieilles culpabilités, de la condamnation, etc. Le diable, quand il a voulu lui ouvrir la porte, là, il saute dedans les pieds joints et il donne tout ce qu'il a. Donc là, je me suis retrouvée un soir, un samedi soir, effondrée chez moi. J'ai essayé de prier, j'y arrivais pas. J'ai essayé de prier en langue, j'y arrivais même pas. Même ça, mon âme était tellement submergée que j'arrivais même pas à prier en langue. Tout ce que j'ai réussi à faire ce soir-là, c'est louer. J'avais un chant qui est venu comme ça sur mon cœur, le chant qui dit « Car Dieu est un Dieu puissant ». Et je me souviens, j'ai fait les 100 pas dans mon appartement pendant, je pense, plus d'une heure de temps à chanter ce chant. Et je pleurais. Mais je le déclarais, car Dieu est un Dieu puissant. Et je continuais, et je le déclarais. Je me suis endormie J'étais pas super bien en forme. Mon mari est rentré. Je lui ai un petit peu partagé, mais il n'a pas vraiment réalisé ce que j'avais vécu. Et le lendemain, on était à l'église et on avait une réunion de rafraîchissement. Les bonnes réunions de rafraîchissement. Je me demande si c'était même pas la première ou la deuxième. C'était tout au début qu'on faisait les réunions de rafraîchissement. Et j'étais encore pas mal affectée par tout ce qui s'était passé la veille. Et à ce moment-là, je me souviens, mon mari avait pris le micro et il avait partagé, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, les quatre amis de la foi par rapport aux quatre amis qui ont fait passer le paralytique par le toit et qui l'ont fait descendre pour l'amener à Jésus. Et il disait que ces quatre amis, c'était différents aspects de la foi. Et il nous a exhortés en fait à nous positionner et à confesser le contraire de ce qu'on vivait, etc. Et là, j'ai vraiment saisi ce qu'il disait, saisi cette parole. Et je me souviens, je me suis mise debout, je me suis avancée devant. Et c'est pas mon genre, comme vous le savez, de me mettre devant tout le monde. Mais là, je savais que c'était vraiment le moment et qu'il fallait que je prenne position. Il fallait que je confesse le contraire de ce que je vivais. Et là, je me souviens, je me suis mise à confesser « Je suis fertile, je suis fertile ». Et au début, j'y croyais pas. Et puis, plus je le disais, plus ça devenait vrai en moi, plus je sentais qu'il se passait quelque chose en moi. Et en le confessant, tout à coup, j'ai senti comme quelque chose se brisait en moi. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Et là, j'ai continué, j'ai confié. Et tout à coup, j'ai dit de ma bouche « Je suis enceinte ». Et là, je me suis arrêtée. Oh. J'ai fait « Oh ouais, je suis enceinte !» Et j'ai continué à le confesser. Et vraiment, je sais que c'est à ce moment-là que j'ai eu ma percée. Vraiment, à ce moment-là, je le sais clairement, c'est clair et net, c'est là que Dieu a pu agir parce que je l'ai laissé agir. C'est pas Dieu qui a agi à ce moment-là, il attendait juste que je lui ouvre la porte. Mais à partir de ce moment-là, déjà la veille, j'avais commencé à combattre le diable et tous ses mensonges et à renverser des fausses mentalités dans ma tête. Mais à ce moment-là, ce fameux dimanche, c'était vraiment le moment où je prenais autorité sur mon corps, sur mon âme, sur toutes ces fausses pensées. Je renversais toutes ces fausses mentalités et je laissais l'intervention de Dieu pouvoir se faire en moi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et quelques jours plus tard, on avait un... Alors, j'en étais invitée à un gala des femmes avec l'épouse du pasteur Fofi, pasteur Suzy à Montréal. Et Annabelle m'avait demandé de l'accompagner. Et très honnêtement, j'en avais absolument pas envie. Vraiment, c'était pas le truc qui me tentait. C'était un souper dans un grand hôtel. Mathilde était là aussi. Et José aussi d'ailleurs. Vous avez toutes vécu ça avec moi. Et on était là-bas, puis c'est ça, c'était censé être un souper, pas grand-chose de spirituel dans la soirée. Et avant le souper, il y a eu un petit temps juste de prière et de louange, mais très très court. Vous imaginez, dans une salle d'hôtel, on était toutes avec nos belles robes, tout ça. Et c'est là que mon mari, justement, m'avait dit avant de partir, « Dieu va te dire quelque chose là-bas, ouvre ton cœur. » Et bon, j'ai dit « Ok, j'ouvre mon cœur. » Moi, bon, j'étais pas hyper enthousiaste. Et donc, pendant ce temps de prière... La femme d'un pasteur, le pasteur Samuel Kamwanga, qui vit aux États-Unis à Boston, elle m'a demandé si elle pouvait venir prier pour moi. Je dis bah oui, hein, on va pas dire non. Elle a prié pour moi, elle a simplement pris mes mains, elle a prié en langue. J'ai prié en langue avec elle, ça a duré quelques minutes. À la fin, elle s'est arrêtée, puis elle m'a regardée. Elle m'a dit « Dieu a entendu ta prière ». Et là, c'est sûr que je savais quelle prière je faisais depuis longtemps. Mais vous savez, je suis assez têtue. Non, mais j'avais tellement été déçue pendant tellement longtemps que j'avais encore peur d'être déçue. Et même si je savais que j'avais vécu quelques semaines avant à l'église quelque chose de spécial avec le Seigneur, j'avais encore vraiment peur de croire être enceinte et au final de pas l'être. Et je voulais tellement plus vivre ça que j'ai reçu sa parole, mais en même temps, je me suis dit, bon, j'ai fait d'autres prières, donc peut-être que c'est une autre prière que Dieu a exaucée, et puis c'est peut-être pas ça. Mais Dieu est bon, et il est vraiment bon. Et l'animatrice de la soirée qui clôture le temps de prière prend le micro et puis dit, elle prophétise vraiment, et elle dit, un ange est passé et t'a touché. Et là, je sais que ça s'adresse à moi, cette parole. On est plusieurs centaines de femmes dans la salle, je sais que ça s'adresse à moi. Et là, elle dit, et Dieu te dit, j'ai entendu ta prière. Et là, elle commence à le répéter et elle me crie dessus carrément. Pour moi, c'est comme si Dieu me disait, j'ai entendu ta prière. Elle l'a répété, je sais pas, 5-6 fois, je sais pas combien de fois, et elle le criait, j'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta prière. Et là, je me suis bien sûr effondrée. J'ai dit, ok, je capitule là, Seigneur, je crois que tu as entendu ma prière et que c'est la prière pour mon enfant. Et là, c'était vraiment la certitude que Dieu avait entendu ma prière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je le savais même pas, mais j'étais déjà enceinte en fait, mais je ne le savais pas. Donc ça, c'est un premier témoignage vraiment de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est vraiment extraordinaire parce que ça a été long, ça a duré presque 2 ans en tout. Et Dieu a été fidèle en fait. Et j'ai réalisé après tout ça, en réfléchissant, en méditant sur toute cette période d'attente, certains diront, oui, bah dans l'attente, on apprend des choses, on grandit, etc. Et effectivement, on apprend des choses, mais cette période d'attente, j'aurais vraiment pu l'écourter. Vraiment, vraiment pu l'écourter. Ça dépendait juste de moi. C'était à moi de me positionner, à moi de justement être plus dans une foi passive où on attend que Dieu fasse, mais dans une foi active où on va chercher son miracle, on va chercher sa promesse. Ça demande un effort, ça demande de se mettre debout et de se pousser en fait. Et parfois on est comme un peu flemmard ou paresseux, je sais pas, mais on est dans cette attente et puis on ne réalise pas qu'on est dans un combat et que dans la vie, on ne peut pas juste être là, vivre notre vie chrétienne de manière passive, se lever, faire notre petite prière, lire nos petits versets, aller au travail, rentrer, etc., faire nos petites vies, et puis s'attendre à vivre des grandes choses. Si on veut vivre des grandes choses, ça demande de se positionner, ça demande de se mettre debout, puis ça demande de prendre des décisions dans sa vie. Et ça ne va pas forcément être confortable, ça ne va pas forcément être facile, ça va peut-être casser notre routine, ça va peut-être nous coûter, parce qu'à ce moment-là, le diable va justement se déchaîner, parce qu'il va essayer de nous éloigner le plus possible de notre bénédiction. Mais c'est le moment où justement il faut se tenir debout, il faut être ferme, et puis il faut être certain que Dieu peut agir et que Dieu va agir. Et en fait, qu'est-ce qui a produit le miraculeux? On peut aller dans la Bible à 2 Corinthiens 12, 10. De Corinthiens 12, 10. Ça, c'est vraiment un point important qui détermine qu'on va avoir notre percée ou pas. Donc, c'est Paul qui parle. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car je suis faible. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors là, c'est sûr, Paul nous parle de persécution qui vivait. C'est le passage controversé là, de l'écharpe dans la chair. Paul parle des persécutions qu'il vivait, de tout ce qu'il vivait. Et c'est certain que je ne vais pas vous dire qu'on vit les mêmes persécutions que Paul, hein, faut bien en être conscient. Mais on vit des persécutions aussi. On vit des temps où le diable s'acharne sur nous et on vit des persécutions dans notre corps, dans notre âme. Et c'est dans ces moments-là, quand on est faible, quand on est épuisé, quand on n'est plus bas que terre, que justement, on est les plus forts. C'est complètement contradictoire, mais parce que notre force ne dépend pas de nous, notre force dépend de Dieu et de notre dépendance à Dieu. Et c'est ça qui va amener toute la différence. On a besoin vraiment de vivre une complète et totale dépendance à Dieu. Ça, c'est vraiment le secret. C'est qu'on est tellement rassuré par nos propres solutions, par nos propres plans, par nos propres idées pour nous sortir de nos situations, que on n'est pas accroché à Dieu comme des enfants qui. Moi, je vois mon fils, s'il a besoin de quelque chose qui est en hauteur, par exemple, il n'arrive pas à l'atteindre, ben, il va peut-être essayer d'aller chercher un petit tabouret et il va pas toujours pas pouvoir l'atteindre, c'est impossible, ça va pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir me chercher et il va pas me lâcher la jambe jusqu'à ce que je lui donne ce qu'il veut. Et maman, viens, maman, viens, maman, viens, il va me tirer, puis il va pleurer, il va se rouler par terre, il va être totalement désespéré jusqu'à ce que je lui donne ce qu'il veut attraper. Parce que il est dépendant de moi pour beaucoup de choses. Et plus il va grandir, moins il le sera. Mais pour ceux qui ont eu des tout petits bébés, ils sont dépendants de vous à 200%. Ils ont faim, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est hurler dans leur lit pour avoir à manger. C'est tout, pour avoir leur biberon, pour avoir leur tétée. C'est une dépendance totale. Et nous, souvent, eh ben, on a fait tout l'inverse. Au lieu d'être complètement dépendant à Dieu, ben, on est plutôt dans une attitude où on va essayer justement de prendre un premier tabouret pour atteindre la chose. Ben, peut-être on va en mettre un deuxième, on va grimper dessus, on va tomber, on va se faire mal, on va se casser une jambe. Quand on aura la jambe guérie, on va réessayer, on va recommencer, on va prendre une échelle. Bref, je suis sûre qu'Annabelle aura une très bonne illustration pour ça. en fait, si on voit un petit peu plus haut, au verset 9, donc toujours 2 Corinthiens 12, mais au verset 9, Paul dit que justement, il a demandé à Dieu plusieurs fois, d'être libéré de ses persécutions. Et Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit, Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ça, c'est très, très puissant. La puissance de Christ repose sur nous quand on est faible, quand on est à terre, quand on est vraiment dans une situation où on n'a plus de solution, on n'a plus le choix. C'est là que la puissance de Christ repose sur nous. Et la puissance de Christ accomplit tout, tout, tout. Il n'y a pas de limite à la puissance de Christ. Il y a des limites à nos solutions, il y a des limites à nos plans, mais la puissance de Christ accomplit tout. Et c'est vraiment dans cet état de faiblesse, dans cet état de désespoir, où on ne peut compter que sur Dieu, que le miraculeux peut s'accomplir. Et encore une fois, je vais vous partager là un autre témoignage qui valide tout à fait ce que je viens de vous dire, parce que vraiment, je peux vous dire, je l'ai vécu, cet état de désespoir, de dépendance complète à Dieu. Et c'est vraiment à ce moment-là que, justement, le miraculeux s'est produit. C'était au mois de septembre cette année, ça fait pas très longtemps. Mon fils a commencé à avoir des petits boutons. Un jour, je suis allée le chercher à la garderie, et puis il se grattait là au niveau du dos. Et il avait des petits boutons rouges. C'était l'automne, il s'était roulé dans des feuilles mortes. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a une petite irritation, enfin voilà. Et les petits boutons commençaient à se déplacer, à venir un peu sur son ventre, à venir sous ses aisselles. Et je l'avais amené voir le médecin, qui m'avait dit, oh, bah, il faut lui mettre un petit peu de cortisone, c'est une irritation due à ses vêtements. À ce moment-là, je devais partir en Suisse, j'avais pas trop envie de lui mettre de la cortisone parce que je trouvais qu'il était petit, donc j'avais pris une crème dans les produits naturels pour pallier à la cortisone. Je lui ai mis cette crème pendant 2 semaines quand j'étais chez mes parents en Suisse, et là, ça a augmenté, augmenté, augmenté. Il a commencé à avoir des boutons vraiment partout sur le corps qui le démangeaient, vraiment beaucoup, beaucoup. Et quand je suis revenue, je l'ai amené à la pharmacie. Le pharmacien me dit « Oh, bah, ça, c'est des boutons de varicelle. Hein, c'est des boutons de varicelle. » Je dis « Ouais, mais ça fait 3 semaines, là, quand même. C'est un petit peu bizarre. »« Bah, non, bah, c'est des boutons de varicelle. » »« Bon, ok. Donc, il a la varicelle maintenant. Au début, il avait une irritation due à ses vêtements. Maintenant, il a la varicelle. Bon, la varicelle, j'y ai pas vraiment cru, mais ça me paraissait un peu long. Mais c'est vrai qu'il avait des symptômes de varicelle. Il se grattait, il avait des boutons rouges sur le corps. Et les boutons ont continué. Donc là, bon, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, parce qu'on cherche des solutions. Et là, on parlait d'allergies, on parlait de savon qui irrite la peau, de lessive pour les vêtements, etc. Donc j'ai commencé à éliminer pas mal de choses. Les semaines, c'est cool. Donc on enlève un certain savon, on en essaye un autre. Je pense que j'ai essayé 5 savons pour le corps, pour Louis, pour le bain, au point que ce que je lui mettais à la fin, je sais même pas si ça lavait encore, tellement il y avait rien dedans. C'était de l'eau, je pense. Et j'ai vraiment tout essayé. Ça changeait rien. Après, je suis partie sur la lessive, j'ai changé de lessive, j'ai essayé des lessives naturelles, sans parfum, hypoallergéniques, blablabla, blablabla, blablabla. Ça changeait rien du tout. J'ai essayé l'alimentation, ça devait être alimentaire. On m'a dit arrête tout ce qui est acide. Donc j'ai arrêté les jus, j'ai arrêté les fruits, j'ai arrêté plein de trucs acides. Ça ne changeait rien, ça continuait. Et ça empirait. Il y en avait vraiment partout. Et ensuite, j'ai essayé même d'arrêter le lait de vache. Je me suis dit, peut-être une allergie aux produits laitiers, allons-y, hein, tant qu'on y est. Bref, j'ai creusé, je peux vous dire, dans tous les recoins possibles et inimaginables de ce qui pouvait provoquer ces boutons. Et à chaque fois, quand on essayait une nouvelle chose, il fallait attendre quand même plusieurs jours pour voir s'il y avait une amélioration ou pas. Ça se produit pas en 30 secondes comme ça. Donc, il y a beaucoup de mois qui se sont écoulés. Pour finir, j'ai décidé de tester la cortisone parce que, désespoir de cause, la cortisone faisait partir les boutons, mais une semaine plus tard, les boutons revenaient. C'était merveilleux. Donc là, vous croyez que c'est bon, c'est fini, et ça revient. C'est très frustrant, ça aussi. Et pour finir, au bout de septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois, 4 merveilleux mois pendant lesquels mon fils se réveillait la nuit tellement ça le grattait. Je le tartinais de toutes sortes de produits que j'ai testés et retestés et il souffrait vraiment. Moi-même, je souffrais terriblement de le voir dans cet état, c'était insupportable. Donc on dormait pas beaucoup la nuit, je lui donnais pour finir des antihistaminiques pour empêcher les démangeaisons, pour enfin, des espoirs de cause, pour qu'au moins il puisse dormir la nuit, etc. C'était compliqué. Et pour finir, un jour, je commence à me gratter moi aussi. Mon mari commence à se gratter aussi. là on se dit il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est forcément quelque chose qui est dans l'air ou c'est pas possible, on n'a pas une allergie qui se déclenche comme ça du jour au lendemain. Bref, pour faire court, on découvre qu'en fait, ma belle-mère, quand elle était venue au mois de septembre, nous a ramené un petit cadeau de l'île de la Réunion. Et en fait, il s'agit de la gale, pour ceux qui connaissent. C'est des acariens, un type d'acarien spécial qui, en fait, aime beaucoup manger votre peau, se loger sous votre peau, pondre des œufs à l'intérieur de vous. C'est merveilleux, c'est absolument dégoûtant. Donc, quand j'ai découvert ça... Oui, bah, j'ai pas rigolé. Ouais, c'était trop pour Annabelle. Quand j'ai découvert que c'était ça, j'étais absolument dégoûtée premièrement et découragée parce qu'en fait, il faut faire des traitements un peu comme si vous aviez des poux chez vous. Donc il faut tout nettoyer, tout ce qui est tissu ou autre, canapé, moquette, vêtements, etc. Bref, ça n'en finit plus. Et là, vous allez à la pharmacie, on vous donne un traitement, une pommade à appliquer. C'est censé, en une application, régler le problème. C'est merveilleux. Sauf que ça n'a pas du tout marché. 3 applications plus tard et 4 semaines de nettoyage intensif plus tard, mon fils avait toujours des boutons. J'en pouvais plus. Comme vous savez, je suis enceinte, donc en plus, faire beaucoup de ménage quand vous êtes enceinte, c'est merveilleux. Passer mes samedis à tout nettoyer de fond en comble, j'en pouvais plus, j'en pleurais. Franchement, j'en pleurais, c'était insupportable et j'en voyais pas le bout. Et on a prié, on a vraiment beaucoup prié, on a vraiment pris autorité sur ces boutons et tout, c'était... Ça n'en finissait plus et la pommade, pour finir, on a dit, ben là, on arrête, 3 applications, ça suffit. J'appelle mon médecin, il me rappelle pas. Les médecins n'avaient absolument rien à faire et c'est là qu'on voit que petit à petit, toutes mes solutions, justement, étaient en train de s'anéantir et de disparaître. Et il me restait bientôt plus qu'une seule solution, c'était le miracle. J'aurais pu le prendre au début, je sais. J'avais gardé pour la fin, le meilleur pour la fin. Hein. Et donc... Un soir, je le récupère à la garderie et là, la gardienne me dit, parce que pendant plusieurs moments, je l'emmenais plus à la garderie parce que c'est très contagieux, mais quand ça allait un peu mieux, je le ramenais. Enfin, voilà, je jonglais un petit peu pour le travail, c'est fantastique. Et là, elle me dit, là, il y a des enfants qui avaient un petit peu des petits boutons aujourd'hui vis-à-vis des parents. Je sais pas si je vais pouvoir continuer à garder votre fils, ce que je comprends tout à fait hein, pour sa défense. Je la comprends vraiment, j'étais assez mal à l'aise. Et je dis oui, d'accord, donc là je rentre le soir, Xème plan dans ma tête, pour la 18e fois je me dis je pourrais arrêter le travail, j'essaie de trouver une idée, ça qu'est-ce que je peux faire, comment on peut faire, il n'y a plus de solution, tout ça, et puis là vraiment le diable, hein, pendant toute cette période, mais toutes les pensées qu'il a pu mettre dans la tête, mais c'est incroyable, et vraiment... Toute cette période, j'ai vraiment vécu une oppression. C'est vraiment, là, je peux vous dire, c'était de l'oppression, c'était démoniaque, c'était clair. Ça prenait toutes mes pensées, toute ma tête. Je me réveillais la nuit, je pensais à ça. Je cherchais des solutions. À devenir complètement fou. Vous voyez votre petit bébé qui a même pas 2 ans, qui est là, qui a des boutons partout, qui se gratte, qui souffre, qui dit « Maman, bobo, c'est insupportable ». Il se réveille la nuit et vous le regardez dans son lit, il est en train de se gratter comme un fou, les pieds, les mains partout. C'est horrible. Et ça me prenait vraiment, vraiment, vraiment la tête, mais à un point incroyable. Et vraiment, c'était devenu de l'oppression. Et donc là, le diable, c'est sûr, il se déchaîne dans l'oppression, il vous met encore plein de pensées et tout ça. Et là, ce soir-là, il recommence à me dire, il faudrait peut-être que j'arrête le travail, il faudrait peut-être que si, peut-être que ça, je recommence tout mon nettoyage. Et là, je dis, non, là, j'en peux plus. C'est plus possible. Et de toute manière, j'ai tout essayé, ça marche pas. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas d'explication logique, ça revenait toujours sur lui. Pour mon mari, pour moi, c'est parti, mais sur lui, ça revenait tout le temps. Donc, ça marche pas. Et là, je me souviens, j'ai pris Louis... Je l'ai mis dans le salon devant un dessin animé pour qu'il n'entende pas ce qui se passe et je suis partie m'enfermer dans la salle de bain. Et là, je me suis vraiment mise en colère, mais vraiment mise en colère contre le diable. J'ai tapé sur mon lavabo, j'étais une sainte colère. Vous savez, cette colère qui vient de l'intérieur et qui dit maintenant c'est assez, c'est fini, ça cesse maintenant. Et vraiment, j'ai parlé au diable, j'ai parlé à la maladie et j'ai confessé et j'ai vraiment saisi mon autorité d'enfant de Dieu à ce moment-là. C'était plus moi qui parlais, ça venait vraiment de mon esprit, puis ça sortait, mais avec plein de colère, mais plein d'autorité surtout. Je sentais que dans mes paroles, mes paroles, elles allaient, puis elles touchaient leur objectif à chaque fois. Et ça a duré peut-être 2-3 minutes, ça n'a pas été long. Mais quand j'ai eu fini, j'ai su que le problème était réglé. J'ai su que c'était fini. J'ai plus rien fait, j'ai plus fait aucun traitement, j'ai plus fait attention au linge ou quoi que ce soit. Je savais que c'était fini. Quand vous avez obtenu quelque chose comme ça, à l'intérieur de vous, vous êtes convaincu. Vous savez que vous savez. Et je suis pas allée voir Louis, regardez, est-ce qu'il a encore des boutons sur les mains? Il en avait énormément sur les mains. Je suis même pas allée faire ça, j'avais pas besoin. Et il en avait encore d'ailleurs, il en avait encore. Mais j'avais pas besoin d'aller vérifier, je le savais. Et il aurait pu le lendemain avoir une éruption de boutons plus monumentale qu'il avait jamais eu, ça n'aurait rien changé parce que j'étais convaincue que Dieu avait agi, qu'il avait été guéri et que c'était réglé, fini. Et les boutons ont pris quand même du temps à s'en aller. Et quelques temps plus tard, les boutons sont un petit peu revenus. Il y avait des cloques sur les mains et c'est vraiment les symptômes de la gale. Et j'étais tellement convaincue de ce qui s'était passé que ça m'a rien fait. J'ai rigolé. Je dis, Satan, tu veux me faire croire que ça va revenir? Non, c'est fini. Et les boutons sont repartis. Et encore il y a quelques jours, là, alors que j'allais venir vous témoigner de ça, il a de nouveau comme des petites rougeurs qui revenaient sur ses mains. Mais pareil, j'ai rigolé. Et c'est reparti. Et je sais que c'est terminé. Mais le diable essaye de me faire croire. Et si ça se trouve, c'est peut-être juste le processus normal aussi que le corps a pour évacuer. Parce que comme je vous ai dit, il pompe des œufs sous la peau. Faut bien que ça aille quelque part, ça. Donc si ça se trouve, c'est juste un processus normal, peu importe. Mais quand vous avez obtenu la réponse, l'exaucement, il n'y a plus rien qui peut vous faire douter, il n'y a plus rien qui peut vous ébranler. Vous êtes solide et peu importe ce qui arrive, peu importe les circonstances, vous êtes plus ébranlable en fait. Vous êtes vraiment solide. Et ça, c'est vraiment la foi, c'est ça. La foi, c'est que c'est comme si on est bâti sur le roc justement. Et peu importe la tempête qui vient, peu importe ce qui arrive, vous êtes là, les deux pieds enracinés, puis vous êtes solide, puis il n'y a plus rien qui peut vous affecter, il n'y a plus rien qui peut vous mettre le doute. Ça, c'est la foi. C'est la vraie foi, c'est la foi dont la Bible parle. Et la foi qu'on peut avoir, nous, où on va prier, et puis quand on n'a pas l'exaucement, mais on dit « Ah ben ça n'a pas marché », ben désolé, mais c'est pas la foi. C'est pas la foi. La foi n'échoue jamais. C'est une certitude qu'il faut qu'on ait tous, c'est que la foi n'échoue jamais. Donc si vous n'avez pas été exaucé, eh ben restez ferme, demeurez et continuez votre combat, continuez, parce que la foi n'échoue jamais. Et là justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que mon miracle s'accomplisse? C'est que mes solutions humaines étaient toutes exploitées, c'était plus possible. Et c'est ça qui a déclenché le miracle. Et franchement, je regrette d'avoir dû en arriver là pour que ça fonctionne. Et c'est vraiment une bonne leçon pour moi. Et je pense que la prochaine fois, je garderai le miraculeux pour le début et les solutions humaines pour la fin. Mais voilà, c'est une leçon qu'on tire. Et c'est fou parce que vraiment, je réalise que si on n'est pas désespéré, ce désespoir, un saint désespoir. Je vous parle pas d'un désespoir où on se lamente, où on se roule par terre. Mais pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Pourquoi ça marche pas? Je vous le dis tout de suite. Ça ne marche pas. Je vous parle d'un saint désespoir. Ce désespoir qui vous pousse à croire pour l'impossible, qui vous pousse à voir tellement grand et à voir que Dieu vit en vous et que au travers de vos paroles, ça, les circonstances peuvent changer, les maladies peuvent disparaître, les problèmes financiers peuvent disparaître, tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie peut disparaître parce que vous savez qui vous êtes en Christ et vous êtes solide. Ça, c'est un saint désespoir. Ce désespoir où vous êtes comme ce petit bébé qui a tellement faim, qui va hurler jusqu'à son dernier souffle pour que sa maman lui donne à manger. Ça, c'est ce saint désespoir dont je veux parler. Où il n'y a plus d'autres solutions. Il n'y a plus de plan B. Il n'y en a plus. C'est plus possible. Il n'y en a plus. C'est Dieu et c'est tout. On est au pied du mur. Et moi, je me suis sentie comme ça ce fameux soir où je suis rentrée du travail. Je me suis sentie au pied du mur. J'ai plus de solution. J'ai plus de choix. Qu'est-ce que je fais? Ben, je compte sur Dieu et je mets ma foi sur Dieu. Et c'est ce qui a fait la différence. Donc, ça, c'est vraiment le premier point. Il n'y en a pas 10, hein, je vous rassure. Le premier point, c'est vraiment réussir à être complètement désespéré. Il y en a 9. Non, c'est pas vrai. Cette histoire me faisait penser à la femme à la perte de sang, qui est vraiment l'exemple biblique par excellence d'une personne qui avait testé toutes les solutions humaines, justement, qui avait exploité vraiment. Elle dit que elle a vu de nombreux médecins et qu'elle a mis tout son argent et que au contraire sa situation empirait. Moi, je me sentais un petit peu comme cette femme-là. Plus j'en faisais pour Louis, plus j'essayais de régler le problème par moi-même, plus les boutons empiraient, la situation empirait. Et vraiment, cette femme-là, elle était pareille, elle était au pied du mur. Jésus est passé. Elle a pas eu peur du regard des autres, elle a pas eu peur de la foule. Elle est allée, elle a dit « Je sais que si je touche le bord de son vêtement, je serai guérie ». Elle le savait. Et elle a foncé. Et je pense que ça a dû être difficile. Il y avait sûrement beaucoup d'hommes forts et gros et solides qui étaient là. Elle, elle devait être toute fragile avec sa perte de sang. Elle devait être complètement anémique, la pauvre. Et elle s'est faufilée. Elle a touché Jésus. Elle a su. Et là, la puissance s'est manifestée. Dans sa faiblesse, la puissance de Christ s'est manifestée. Elle a été complètement guérie à ce moment-là. 12 ans de plan B, 12 ans de testage de solutions humaines. Et paf, Jésus et le miraculeux s'est produit. Ça, c'est vraiment, je trouve, le super exemple par rapport à ça. Et il y a un point justement dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au diable qui vient avec toutes ces pensées. Et ça, souvent, ce qui se passe, c'est quand on prie et qu'on n'est pas exaucé, et ben justement, là, c'est la porte ouverte à toutes sortes de pourquoi, de comment, de qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que Dieu m'entend vraiment, est-ce que Dieu est vraiment dans ma vie, est-ce que je suis vraiment né de nouveau. Ça peut aller très très loin. Et ça, c'est vraiment une des choses que le diable va faire, c'est qu'il va vouloir venir mettre le doute en nous. Et ça, vraiment, ça doit être son passe-temps favori, c'est de venir mettre le doute dans la vie des chrétiens. Et le doute, je vous dis tout de suite, ça tue la foi. Ça, c'est radical. Le doute et la foi, c'est comme, c'est pas possible. Il y en a un ou l'autre, mais les deux, c'est impossible. Et souvent, on est rempli de doutes. On n'en a même pas conscience parce que, comme je vous disais, on a plein de faux raisonnements qu'on a acceptés, des fausses mentalités qu'on a acceptées dans notre vie. Et le doute prend tellement de place en nous, c'est terrible. Vous pouvez aller dans Jacques 1:6. C'est des versets que vous connaissez, mais j'aimerais que ce soir, il puisse vraiment devenir vie en vous. Jacques 1:6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est fort parce que, imaginez l'image prise, imaginez quand même quelqu'un qui est comme les flots de la mer. Vous voyez la mer quand il y a une énorme tempête. Et il y a des vagues gigantesques et c'est le vent qui va décider où la mer va aller. Un coup, une vague va aller à droite, à gauche, puis ça va devenir grand, ça va devenir petit. Quand un bateau se retrouve là au milieu, en général, il sait plus où est le nord, le sud, l'est, l'ouest, et là, il perd complètement son cap. Parce que une mer agitée comme ça, il y a aucun sens. Ça part dans tous les sens et ça produit rien. C'est ça que le doute fait en nous. Et c'est ce que le diable essaye de faire. Donc, qu'il la demande avec foi. Et ça, c'est vraiment le secret. Et on peut aller dans Marc 11, 23, que vous connaissez aussi, qui confirme ça. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. L'objectif du diable, c'est vraiment de nous faire douter, parce qu'il connaît la puissance du doute. Le doute qui tue la foi, qui anéantit. Vous pouvez avoir une petite graine de foi en vous si vous laissez la place au doute. Tout est anéanti, ça sert à rien. Ça sert à rien de prier si vous êtes dans le doute. Honnêtement, ça sert à rien du tout de demander quelque chose si on est dans le doute. C'est inutile parce que notre prière, elle dépassera pas le plafond. C'est le doute tue la foi. Et ça, c'est vraiment, et ça, le diable le sait très bien. C'est pour ça qu'il passe autant de temps à essayer de nous faire douter, à essayer de nous faire croire tout un tas de mensonges, parce qu'il sait la puissance du doute. Il y a vraiment une puissance dans le doute, une puissance diabolique, une puissance néfaste, une puissance mauvaise, mais il y a vraiment une puissance. Et c'est important vraiment de réaliser ça, parce que tant qu'il y aura du doute, ça servira à rien, ça produira rien. Comme j'ai dit tout à l'heure, la foi n'échoue jamais. Et il y a un terrain qui est propice à la foi. Pour ceux qui ont fait l'IBM, vous vous souvenez, dans la foi numéro 2, on parlait d'un champ. Avant de pouvoir cultiver dans un champ, qu'il fallait enlever toutes les roches à l'intérieur, qu'il fallait enlever tout ce qui était mauvais, parce que un champ qui est pas retourné, dont la terre est sèche, dont la terre est mauvaise, vous pouvez cultiver, planter ce que vous voulez, il y a rien qui poussera. Et c'est vraiment ça. Il y a un terrain qui est propice à la foi et un terrain miné de doutes. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ça ne produira jamais la foi. Et ça, c'est vraiment important de se sonder nous-mêmes quand on vit des temps d'épreuve et de dire, mais qu'est-ce que je crois au fond de moi? C'est quoi ma conviction réelle? C'est pas, oh oui, qu'est-ce que le pasteur enseigne à l'église? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que les enseignements de l'IBM m'ont dit? C'est qu'est-ce que moi, à l'intérieur de moi, si je sonde mon cœur, quelles sont mes convictions? Qu'est-ce que je crois? Et c'est là qu'on réalise que moi, quand je voulais tomber enceinte, que je réalise que j'avais accepté des pensées mensongères depuis des années et que j'avais accepté que j'aurais certainement de la difficulté à avoir des enfants, que ce serait certainement compliqué, que ci et que ça et tout un tas d'autres choses. Et on accepte souvent des choses. Et ça, ça tue la foi. C'est ça qui met le doute. Parce que c'est pas ce qu'on dit de notre bouche, c'est ce qu'on croit dans notre cœur. C'est ça qui fait vraiment la différence et c'est important. Trop de gens ont toujours plein de versets merveilleux dans la bouche, plein d'encouragements, plein de prières excellentes. Mais quand on voit leur vie, on voit qu'il ne se produit rien. C'est parce que ce n'est pas ce qui est dans votre bouche qui compte, c'est ce qui est dans votre cœur. Qu'est-ce que vous croyez? Quelle image même on peut avoir de Dieu? Qu'est-ce qu'on croit que Dieu fait? Est-ce que vraiment on est convaincu que Dieu est bon, que Dieu est un bon Père qui nous aime et qui veut le meilleur pour nous? Ou est-ce qu'au fond, même si à l'église on nous enseigne dimanche après dimanche que la maladie ne vient pas de Dieu, est-ce qu'on croit que la maladie peut venir de Dieu? Est-ce qu'on croit que la maladie peut glorifier Dieu? Est-ce qu'on croit ça? Sondez vraiment, sondez vos cœurs parce que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe et c'est ce qui va déterminer si oui ou non vous aurez votre percée. Rapidement, un autre événement que j'ai vécu tout au début de ma vie chrétienne. Quand je suis venue au Seigneur, j'étais en relation avec un garçon qui n'était pas sauvé et qui n'a pas été sauvé par la suite malgré mes multiples prières. Et j'ai dû arrêter la relation avec lui parce qu'elle n'était pas bonne, elle n'était pas bonne pour moi. Donc, quand je l'ai laissé, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais plus du tout d'amis autour de moi. J'avais juste les membres de mon église et on était à peu près 10-15 membres. Une église essentiellement africaine. Mon frère et moi, on était les seuls blancs de l'église. Et j'avais 18-19 ans. Ouais, j'avais 18-19 ans à ce moment-là. Et je pensais mariage, bien sûr, hein, comme la plupart des filles à cet âge-là. Et j'avais absolument aucune possibilité autour de moi, humainement parlant. Je connaissais aucun chrétien, sérieux. J'avais l'impression qu'en fait, quand je suis née de nouveau, j'avais l'impression que toutes les autres églises autour de nous étaient dans l'erreur, en fait, qu'il y avait juste notre assemblée qui avait compris, qui avait vécu ce que j'avais vécu. Et puis, j'avais personne autour de moi. Je passais tout mon temps avec mon frère ou avec le pasteur et son épouse. Donc, j'avais vraiment aucun moyen de rencontrer un mari potentiel. Et ça a été vraiment difficile. Et je me souviens, j'ai beaucoup pleuré parce que j'avais vraiment terriblement peur de pas trouver de mari. C'était vraiment une inquiétude pour moi. Vraiment, vraiment. Et je supportais assez mal d'être seule. Et c'était très difficile. Et au bout d'un certain temps, j'ai dû apprendre à compter sur Dieu et à m'appuyer sur lui. Au tout début, c'est ça, de ma vie chrétienne, peu de temps après mon baptême, j'ai compris qu'il fallait que je lui fasse confiance, qu'il fallait que je prenne une décision là aussi, parce que sinon, je pense que j'aurais même pu retourner avec mon ancien copain juste pour ne plus être seule, parce que c'était une solution humaine, encore une fois, et c'était épouser n'importe quel garçon célibataire chrétien, juste parce qu'il est chrétien, hein. Qu'il soit gentil ou pas, qu'il soit beau ou pas, que je l'aime ou pas, c'était pas important, il est chrétien, ok, je suis chrétienne, on peut se marier, c'est parfait, on va être heureux. Et vraiment, je vous assure, j'y ai pensé. C'est pour vous dire. Et en fait, je me souviens vraiment d'un soir où le Saint-Esprit est venu me visiter dans ma chambre. Et ça a été très, très, très fort. Et c'est pour vous dire comment quand Dieu vous parle, et ben justement, ça bâtit votre foi et vous êtes rendu solide, solide comme le roc. Et le Saint-Esprit m'a visité vraiment très, très fortement un soir où j'allais juste aller me coucher. J'ai fait une petite prière avant de m'endormir. J'ai senti qu'il fallait vraiment que je me mette à prier en langue, que je me mette par terre. Je me suis mise à genoux au pied de mon lit. J'ai commencé à prier en langue et j'ai senti vraiment comme la présence de Dieu venir sur moi, comme une main qui me poussait en arrière. Je me suis retrouvée plaquée au sol sur le dos. Et je priais en langue, tout simplement. Et là, j'ai commencé, en fait, à prier, sans m'en rendre compte, mais à prier en français à ce moment-là, pour celui qui allait être mon mari, et qui vivait quelque chose de très, très difficile à ce moment-là. Et j'ai commencé à vraiment prier pour lui, mais avec ferveur, avec larmes, de manière très, très spécifique. J'avais aucune idée pour qui je priais à ce moment-là. C'était vraiment, ça venait vraiment de Dieu. Et à la fin de cette prière, j'ai commencé à Et ça, c'est complètement fou. Vous avez trouvé ça peut-être bizarre, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à ressentir de l'amour pour mon mari que je ne connaissais pas. Je savais pas qui c'était. Je savais pas où il était. J'avais absolument aucune idée. Mais j'ai commencé à l'aimer. Je pense qu'à ce moment-là, vraiment, j'ai eu la certitude que Dieu avait quelqu'un pour moi et qu'il allait pourvoir à mon besoin de mariage, qu'il allait prendre soin de moi à ce niveau-là. Et j'ai mis ma foi justement sur le Seigneur, au point que j'ai commencé à aimer cet homme que je ne connaissais même pas. Et à partir de ce jour-là, j'ai plus jamais versé une seule larme par rapport au mariage ou quoi que ce soit. Et toute crainte a été bannie de moi, toute inquiétude de rester seule. Pourtant, je ne l'avais pas rencontré, je ne savais pas qui c'était. Mais quand Dieu vous parle, quand Dieu met une certitude, une conviction en vous, encore une fois, il n'y a plus de place pour le doute, il n'y a plus de place pour rien. Et 3 ou 4 mois plus tard, je rencontrais celui qui est mon mari aujourd'hui, je rencontrais Michael. Et quelques temps après, en discutant avec lui, je réalise qu'exactement à la période où j'ai prié pour lui, il avait vécu quelque chose de très, très, très difficile et vraiment qui aurait pu vraiment avoir des répercussions dans sa vie. Et c'était vraiment pour lui que j'avais prié à ce moment-là, alors que je ne savais pas du tout qui c'était, je ne savais pas qui il était ni où il était. Mais vraiment, quand j'ai vécu ça, la foi est venue. Et encore une fois, la foi vous donne cette certitude, cette conviction et vous marchez la tête haute. Et vous savez qu'il ne peut rien vous arriver, que Dieu est là, que Dieu est à l'œuvre. Et il n'y a rien qui peut vous arrêter. Là, je me souviens, pendant toute cette période, ça a été la période où j'ai été la plus proche du Seigneur. Pas de toute ma vie, je vous rassure, hein, mais depuis ma conversion. Parce que vraiment, il n'y avait plus d'obstacles, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus toute cette inquiétude, tous ces questionnements et tout ça. Je marchais dans cette conviction, dans cette certitude que mon Père est bon, qu'il pourvoira à mes besoins, qu'il veille sur moi et qu'il a tout entrepris pour que je sois heureuse et que je manque de rien. Et ça, c'est vraiment, quand vous avez cette certitude, ça vous permet vraiment de déplacer des montagnes, justement. Et donc, la foi, ça demande vraiment de se positionner et de persévérer. Donc, on peut reprendre le verset qu'on avait pris au début, Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Je pense que ça vous parle peut-être un peu plus maintenant que quand je l'ai lu au début. Ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. La foi et la persévérance, ça marche ensemble. C'est autant le doute et la foi marchent pas ensemble, autant la foi et la persévérance marchent ensemble. Parce que la foi, c'est pas juste un instant, hop, un moment là, hop, j'ai la foi et la seconde d'après je l'ai plus et la seconde d'avant je l'avais pas. La foi, ça marche dans la persévérance parce que comme c'est ça, vous avez beau avoir vécu une expérience forte et savoir qu'il s'est passé quelque chose, si vous persévérez pas dans la foi, ben ça se peut que vous perdiez ce que vous avez acquis en fait au moment où vous avez cru, parce que vous laissez à nouveau la place au doute, la place à l'inquiétude, etc. Donc c'est vraiment important de marcher dans la persévérance. Et c'est ce qui fait que quand vous vivez des combats, même si vous n'avez pas tout de suite votre percée, même si vous avez l'impression que vous êtes pris dans un tunnel et qu'il n'y a pas de fin, eh ben, il y a une lumière au bout du tunnel. Et si vous continuez d'avancer dans la persévérance, vous allez finir par la voir, cette lumière, et puis par sortir justement de ce tunnel. Il faut vraiment être dans une attitude combative et persévérante où on n'a pas peur de se mouiller, on n'a pas peur de s'investir, on n'a pas peur de chercher à obtenir notre percée, de se mettre debout et de combattre vraiment. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça coûte de combattre, ça coûte vraiment. Et il faut pas avoir peur de ça. Certains me diront, ouais, mais moi, je suis pas d'un tempérament très combatif. Moi, je suis quelqu'un plutôt d'assez passif, assez faible. Et puis, quand il y a des problèmes, bah, j'ai tendance plutôt à contourner le problème plutôt que d'aller dedans. Mais ça n'a pas d'importance. Ce que vous faites dans votre vie de tous les jours et ce que vous faites dans votre position en tant qu'enfant de Dieu, c'est deux choses complètement différentes. Ça demande pas un tempérament particulièrement combatif. Ceux qui me connaissent, vous saurez que je suis pas très persévérante dans la vie. Je commençais à jouer de la guitare 2 fois déjà. Ben, je sais toujours pas en jouer. J'avais un peu mal aux doigts, j'arrêtais. Hein. C'était facile. Je suis pas persévérante, mais quand il s'agit des choses de Dieu, quand il s'agit de quelque chose qui vous concerne, qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez besoin de vous sortir de cette situation, vous allez voir, la persévérance, elle s'impose à vous. Vous n'avez pas le choix. Ça s'impose à vous parce que vous devez le faire et la foi va finir par venir. Donc, ne renoncez pas. Ça peut prendre du temps. Ça peut être court, Parce que vous avez décidé que ce sera court ou ça peut être long, parce que comme moi, vous allez décider d'utiliser déjà certaines solutions. Donc ne vous arrêtez pas quand vous voyez que ça ne marche pas. La foi n'échoue jamais. Donc il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer jusqu'à ce qu'on obtienne notre miracle. Et ça, c'est aussi une belle démonstration que vous pouvez dire au diable. Ça ne sert à rien ce que tu fais parce que quoi qu'il arrive, je vais continuer. Je n'abandonnerai pas. Ça, c'est l'attitude du chrétien qui est persévérant. Celui qui n'abandonne pas malgré les circonstances, qui voit le problème, qui voit les circonstances, mais qui continue, qui persévère, qui combat jusqu'à l'accomplissement. Si vous fixez vos yeux sur l'accomplissement, mais la période de l'attente et de la persévérance, elle va quand même être là, mais elle va être beaucoup plus facile parce que vous savez qu'au bout de cette période, il y a un accomplissement qui va venir et que c'est vous-même qui allez déterminer la durée de cette période de persévérance. C'est important de le savoir. Dieu ne prend pas plaisir à nous regarder souffrir pendant des mois et des années, à dire « c'est bien, tu vas apprendre, tu verras ». Je peux vous assurer que moi, je suis maman, que mon fils, quand il a bobo, je le regarde pas souffrir pendant 10 minutes avant de lui faire un câlin et puis de soulager son bobo. Je vais tout de suite aller le prendre et je vais le consoler. Et même s'il s'est fait bobo parce qu'il a fait une grosse bêtise, parce que parfois, on a des bobos dans la vie parce qu'on a fait des grosses bêtises, mais Dieu est bon, Dieu nous pardonne, Dieu est miséricordieux, rempli de bonté. Il est toujours là, les bras grands ouverts. Donc ne vous laissez pas non plus vous mettre sous la condamnation ou la culpabilité. Ça aussi, le diable est expert dans le domaine. Dieu est bon. Il vous prendra toujours dans ses bras et il sera toujours là pour intervenir pour vous et pour vous sortir de vos situations. La foi est un muscle. Est-ce que vous le savez? Si vous vous souvenez, mon mari a fait une excellente démonstration sur ce sujet. Vous l'avez tous en tête, je suis sûre. Vous le voyez tous essayer de soulever un haltère sans y arriver. Mais la foi, c'est un muscle. C'est quelque chose qui s'entraîne. Et en fait, j'ai remarqué que quand on a obtenu une percée dans un domaine, à un niveau de foi particulier, on va avoir plus de facilité à obtenir la percée après dans un niveau équivalent. Et ça, c'est biblique, hein, c'est tout à fait biblique et c'est logique en même temps, humainement parlant aussi. Vous avez déjà vécu un miracle, vous avez déjà vu Dieu intervenir dans ce domaine-là, donc vous n'allez plus retomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes pièges, dans les mêmes détours. Donc c'est assez logique. Et moi, je l'ai vécu pour ma deuxième grossesse, qui est en cours. Le problème que j'avais n'était pas forcément résolu, je n'en sais rien, puisque je ne suis pas allée consulter après avoir accouché de Louis ou quoi que ce soit. Ce que je sais, c'est que mon cycle était toujours aussi long, donc certainement que le problème était toujours là. Et donc, on a voulu avoir un deuxième enfant. Et le moment venu, j'avais donc plus toutes ces mauvaises pensées, toutes ces fausses mentalités, etc., etc. Et je pensais que ça allait se faire quand même très facilement, donc j'ai pas pris le temps de me positionner dans la foi ou même de prier pour ça. Je me suis dit, bah là c'est bon, le problème est résolu. Sauf qu'il y a de nouveau eu quelques mois qui se sont écoulés et un fameux test de grossesse négatif. Et ça c'est efficace, c'est efficace. Et j'ai vécu une déception, pas une grosse déception, mais quand même une petite déception qui m'a rappelé les déceptions du passé et qui m'a fait comme une petite décharge électrique pour me rappeler que j'avais besoin là aussi de me mettre dans la foi. Mais comme je savais ce qui s'était passé, je savais comment faire, je savais dans quel piège il fallait pas que je retourne pour perdre du temps, ça a été très très rapide. Et je peux là aussi vous dire exactement le jour, le moment précis, voire la seconde précise où j'ai obtenu ma percée, c'était encore une fois à l'église. Il se passe des choses à l'église, c'est fou, hein? Comme quoi c'est bien d'aller à l'église. Quand vous aviez un doute, hein. Encore une fois, à l'église, un temps normal pendant la louange, je pense, où un des pasteurs avait pris le micro pour exhorter par rapport à Abraham et Sarah. Donc, c'était en plus de circonstances, en l'occurrence. Et là, je savais ce que j'avais à faire. C'était une évidence. Encore une fois, là, je me suis juste positionnée, vraiment. Je me souviens très bien, encore même du siège où j'étais, où j'ai commencé à confesser. Et là, c'était, j'avais vraiment une assurance beaucoup plus, j'étais beaucoup plus solide quand je confessais. Et là, je parlais même pas forcément de fertilité ou quoi que ce soit, je parlais plutôt de moment. Et j'ai vraiment parlé. Et là, j'ai dit, c'est ce cycle-là que je tombe enceinte et on voulait avoir une fille. Et j'ai vraiment dit, c'est ce cycle-là et j'aurai ma petite fille. Et j'ai même dit son nom et tout. Et j'étais vraiment dans une certitude. Et j'ai dit, c'est cette fois-là, c'est maintenant, il n'y a plus de déception, c'est terminé, il n'y a plus de problème et tout ça. Et le fameux cycle suivant, je tombais enceinte et puis bah, après on a su que c'était une petite fille. Donc vraiment, Dieu a intervenu. Tout ça pour vous dire que ça a été beaucoup, beaucoup plus facile. Il y a eu nettement moins de larmes, il n'y a pas eu de frustration, il y a eu une petite déception. Ça a été plus facile. Donc oui, vraiment, la foi, c'est un muscle. Si tous les jours vous allez soulever les poids, au début vous les soulèverez avec autant de facilité que mon mari, c'est-à-dire que vous ne les soulèverez pas. Mais si tous les dimanches il faisait l'exercice et bon quelques autres fois dans la semaine aussi, je pense, avec des poids un peu plus légers, il finirait par le soulever facilement, aussi facilement que Stéphane l'a fait quand il vous a fait la démonstration. Donc oui, vraiment la foi est un muscle. Donc quand vous obtenez une percée, moi, je trouve que c'est très important de le noter ou justement même d'en témoigner autour de vous ou de vous le remémorer régulièrement, mais parce que c'est important de pas oublier ce que vous avez vécu, de pas oublier ce que Dieu a fait et de comment vous avez obtenu votre miracle, de ce qui s'est passé en vous. Parce que quand vous le vivez, vous savez vraiment qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Je peux pas mettre de mots dessus, mais il se passe quelque chose. Et vous savez qu'il faut reproduire cet état-là pour pouvoir obtenir de nouveau votre percée. Et je vous assure, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. En tout cas, en l'occurrence, pour moi, ça a été vraiment, vraiment plus facile. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses que je voulais vous dire. Et je vais terminer par un verset. Hébreux 6, 15. Hébreux 6, 15. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez vous approprier ce verset tout particulièrement. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Et à la place d'Abraham, vous pouvez vraiment mettre votre nom. Moi, je peux dire, et c'est ainsi qu'Yveline, ayant persévéré, obtint l'effet de sa promesse. Et c'est vraiment ça. C'est dans la persévérance que vous allez obtenir l'effet de la promesse. La promesse, vous la connaissez. Amen, mon frère, oui. La promesse, vous la connaissez, vous savez ce que Dieu a déclaré sur votre vie. Vous savez les promesses qui sont réservées aux enfants de Dieu. C'est une chose de les connaître, c'est une autre chose de les vivre. Donc, persévérez, persévérez. J'aimerais vraiment vous encourager. Si moi, j'ai réussi à persévérer, je vous assure, vous pouvez y arriver. Je suis le contre-exemple de la persévérance. Donc, vous pouvez vraiment, vraiment y arriver. Et peu importe le domaine. Là, je vous ai parlé de choses qui étaient plus en rapport avec la maladie, mais ça peut être par rapport aux finances, ça peut être par rapport aux besoins de guérison dans votre âme, ça peut être par rapport à plusieurs domaines, mais vraiment, soyez des personnes persévérantes, des personnes de foi. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour obtenir vos miracles, vous l'avez en vous. Ça demande juste de se donner un bon coup de pied aux fesses de temps en temps et de décider de se mettre debout et d'arrêter d'être dans la plainte, dans la lamentation et à regarder toujours ces circonstances qui ne changent pas, qui n'évoluent pas, qui vous coupent la foi, qui vous sapent la foi. Mais croyez que Dieu est capable de faire toute chose au travers de votre foi. C'est ça vraiment le secret. C'est certain, un grand prédicateur rempli de foi, rempli d'onction peut venir un jour vous imposer les mains et vous serez guéri. Mais en attendant à ce qu'il arrive, vous allez rester dans votre état. Donc, soit vous courez toutes les croisades et toutes les conférences et puis en espérant qu'il y ait une forte onction le jour où vous allez arriver là-bas. Vous savez, je suis allée à une conférence un jour à Londres. Une conférence. Quelle conférence. C'était toute une nuit. Toute une nuit de conférence, une nuit blanche. Hein. Moi, je m'endors très facilement. Et c'était toute une nuit. C'était très dur. Et c'était une nuit de miracles et de guérison. Et on est allé en autobus. Le bus a pris le ferry pour traverser la Manche depuis Paris. C'était un voyage très, très long. On arrive là-bas. Et dans l'autobus, il y avait une femme qui a amené son mari. Son mari était dans un état complètement... comme un légume, vraiment. Il était plus capable de marcher, de parler. Je sais pas exactement quelle maladie il avait, mais il fallait, je crois, qu'il se mette à 4 personnes pour le porter, le monter dans l'autobus, le redescendre. Enfin, elle l'a traîné là-bas, elle l'a amené là-bas, elle devait le changer, elle devait le nourrir. Il était plus capable de rien faire du tout, du tout. Et elle l'a amené là-bas vraiment avec la certitude que Dieu allait le guérir là-bas. Et le lendemain matin, après cette nuit interminable, il s'est passé quelques miracles, effectivement, mais c'était pas si extraordinaire que ça. Mais le lendemain matin, on était tous complètement épuisés sur le parking à attendre l'autobus, et cette femme était là avec son mari, absolument dans le même état qu'avant. Et elle s'attendait, je pense, plus à l'homme qu'à Dieu en emmenant cet homme là-bas. Et elle nous a raconté qu'elle l'avait amené dans une école de guérison en Afrique. Imaginez, son mari dans cet état-là, elle l'a fait voyager jusqu'en Afrique pendant, c'était une école de guérison sur 3 mois ou 6 mois, je ne sais plus, mais vraiment longtemps, dans des conditions vraiment difficiles. Et elle a ramené son mari chez elle dans le même état qu'elle était partie. Et c'est terrible de se dire ça, c'est vraiment terrible, parce que c'est pas Dieu qui n'a pas voulu guérir son mari, c'est sûr que non, mais c'est que je pense que la foi était pas forcément positionnée au bon endroit. Donc c'est pour ça que je vous dis, on peut attendre de la part des hommes qui sont loin de Dieu, qui vous imposent les mains, et c'est quelque chose de 100% biblique. Donc n'arrêtez pas de venir à l'imposition des mains à l'église, c'est pas ça que je dis, mais ça peut prendre du temps. Alors que si vous mettez toute votre espérance en Dieu, eh ben, ça va changer les choses. Et vous pouvez mettre votre espérance en Dieu au travers d'un homme qui est loin, qui vous imposera les mains. C'est tout à fait biblique aussi. Mais vraiment, on a souvent trop tendance à attendre que les choses viennent des autres, que les autres croient à notre place, que les autres nous disent les paroles qu'il faut. Et on met beaucoup de responsabilités sur notre pasteur en disant bah, s'il avait apporté tel message, s'il avait dit telle chose. Mais vous savez, si on cumulait tout ce que notre pasteur nous a enseigné depuis les nombreux dimanches où on est à l'église, on réaliserait qu'on a reçu plus qu'assez pour vivre des miracles et vivre des percées. On a tout ce qu'il faut. C'est juste que des paroles qu'il faut juste rentrer dans nos oreilles et ressortir par l'autre, ça produit pas de fruits. Donc pareil pour ce soir, si mes paroles sont rentrées dans une oreille et ressorties par l'autre, bah bouchez vite pour qu'il en reste un tout petit peu. Parce que ça va pas porter de fruits sinon. Donc gardez en tête les témoignages que je vous ai confiés ce soir. Et gardez en tête les paroles qui vont avec, les clés que je vous ai données, et mettez-le en pratique, c'est surtout ça. Mettez-le en pratique, ressortez pas de là ce soir en vous disant « Ah, c'était sympa, c'était édifiant, ah ouais, c'est fou ce qu'elle a vécu, impressionnant, ouais, Dieu est bon, gloire à Dieu. » Et puis vous vous l'appropriez pas. Donc vraiment, prenez-le pour vous, saisissez-le pour vous. Voilà.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.